Entrepreneur State of Africa est un podcast produit par Totem Factory by Totem Experience.
Shalom!
Salam, salut!
Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut
ce que les entrepreneurs pensent
tout bas. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on pense vraiment tout bas, qui n'est même pratiquement jamais discuté, même entre entrepreneurs.
Ouais, mais parce que le reste du monde croit qu'on est libre de notre temps, qu'il faut devenir entrepreneur pour pouvoir gérer son temps. Toutes ces conneries.
Ces idées reçues.
Allons là-bas, toi aussi. Mais en tout cas, on va essayer d'aller dans le détail cette fois de la gestion du temps pour nous. Et on va prendre vraiment le temps de vous expliquer comment on gérait le temps quand on était au début dans notre aventure entrepreneuriale, comment on le gère aujourd'hui. On va même lâcher quelques petites anecdotes personnelles. Moi, j'ai partagé comment j'ai eu ma plus grosse défaite professionnelle et comment j'ai dû m'en relever grâce au crunch time. Et l'importance de cette notion de savoir mettre la gomme et le crunch time quand il faut. Dans mon cas, c'est des levées de fonds. Chez Caillé, il y a plusieurs moments où c'est chaud.
C'est les joies du B2B.
Exactement.
Donc, les joies du B2B, des entreprises de services pour ceux qui connaissent.
Force à vous, les gens. Force à vous.
Donc voilà. Ouais, on va parler de tout ça, mais surtout, on va aussi parler du lien de notre gestion du temps avec la vie personnelle et la balance qu'il faut avoir, l'équilibre qu'il faut avoir entre ce feu qu'on subit parfois au boulot et l'équilibre émotionnel. Je pense que c'est un épisode où on a été à la fois, on va dire, conceptuel, philosophique, mais également
assez pratique
avec quelques notions techniques.
Pas mal d'outils.
Et on a vraiment hâte d'avoir vos retours. Donc,
abonnez-vous.
Bon épisode à tous. Oui, abonnez-vous.
Abonnez-vous, c'est gratuit encore une fois. La majorité d'entre vous nous écoute, nous regarde, mais ne nous donne pas de force.
C'est ça.
Alors que c'est gratuit. Et je vous assure que si vous vous abonnez, il y aura au moins une autre vidéo qui vous plaira. Et ça vaudra cet effort. Donc, petite cloche, s'il vous plaît. Et on est parti.
Let's go. Ciao.
Shalom.
Salam.
Salut à tous.
Nouvel épisode.
Exactement. Très spécial, parce que moi, ça fait longtemps que je l'attends, surtout que le thème est une fois d'actualité. Là, en fait, c'est de l'actualité dont on parle, Kai.
Ça dépend quand sera diffusé cet épisode.
Exactement.
Mais même quand ce sera diffusé, ouais, c'est l'actualité.
C'est l'actualité, parce que là, tu rentres dans une période intense pour toi, en termes de gestion du temps.
Ouais.
Ouais.
C'est un peu tendu. Ah. Et monsieur qui est là en vacances en ce moment, c'est-à-dire qu'il est dans mon WhatsApp, il m'appelle, j'ai pensé à ça, j'ai dit, mais mon ami.
Va travailler.
On n'est pas influenceur.
C'est très important parce que nous, on n'est pas influenceur à temps plein, on n'est pas créateur de contenu à temps plein. Donc, j'avoue, quand je suis en vacances, j'étais en mode, ouh, c'est parti, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Et pendant ce temps, moi, je savais pas que t'étais dans un moment vraiment intense, quoi. Donc,
Crunch time,
exactement.
Tu appelles ça.
Exactement. Que les gens sachent, parce que je pense que l'idée, pour donner un peu le contexte de l'épisode, comme vous avez dû le voir dans la description, c'est que on se rend compte que la gestion du temps, on a déjà fait un épisode sur la productivité.
Avec Philippe Simo.
Avec Philippe, exactement. Je crois que c'était 24 ou un truc comme ça, je suis pas sûr.
Ouais.
Qui est intéressant, mais on n'est pas rentré vraiment, je pense, dans la gestion du temps. Mm-hmm. Et surtout, je me suis rendu compte, en tout cas, de nous deux, on a tous. Le problème, c'est que les gens, des fois, voient notre style de vie et notre gestion du temps. Et surtout, c'est un élément important pour beaucoup de gens qui se disent « Je vais être entrepreneur pour être libre et gérer mon temps.
Mm-hmm. »
Tu vois.
Ouais.
Je pense que c'est une motivation importante pour beaucoup de gens. J'entends énormément ça. Mm-hmm. « Je vais pouvoir gérer mon temps. Je vais pouvoir gérer mon temps. Mm-hmm. » Et souvent, alors, on nous a reproché d'avoir un peu un langage, en tout cas moi, dans un langage un peu défaitiste, en mode « Ouais, t'es pas libre de ton temps.
Mm-hmm. »
Mais ce que je voulais expliquer aux gens, c'est qu'en fait, il y a des saisons.
Ouais.
Il y a des moments, il y a le crunch time qui est en particulier, il y a le temps normal qui est en particulier, et surtout j'aimerais qu'on prenne aussi la gestion du temps dans les différentes étapes de notre carrière entrepreneuriale. On ne gérait pas le temps pareil quand on était juste au tout début, après quand on a eu une petite équipe, et après aujourd'hui on a des équipes 20, 30 personnes, et c'est encore différent quand tu arrives à 50, 100.
Effectivement, on pourrait faire, enfin là c'est, comme tu l'as dit, on a déjà parlé peut-être de productivité, mais time management, je pense qu'on pourrait faire vraiment beaucoup d'épisodes.
Exact.
Même quand on parlait de la gestion des réunions, on se disait, enfin, il y a même une question de time de micro time management.
Exactement, dans la réunion. Voilà.
Mais effectivement, j'avais pas identifié que c'est vrai que t'as ton fameux truc où les gens disent je veux être entrepreneur pour être libre.
Oui.
Et c'est de toujours répéter qu'on n'a jamais été aussi peu libre.
Exactement.
Parce qu'on est dépendant de beaucoup de choses.
Ouais.
Mais la gestion du temps, moi, je pense que j'ai dû le dire dans ce podcast. Enfin, je le répète tellement de choses, tellement de fois. C'est vraiment la première chose. Quand je suis devenu entrepreneur, ça a été vraiment la première chose à laquelle j'ai dû sérieusement m'intéresser.
Exactement, parce que tu as parlé de Eat the Frog de Brian Tracy qui t'avait beaucoup marqué, je pense.
Ouais. De Brian Tracy sur justement, tu parlais de la différence entre le début de carrière entrepreneur et aujourd'hui. Moi, la première différence que je vois, c'est qu'au début, c'était comment réussir à gérer mon temps de la journée.
Oui.
Aujourd'hui, c'est comment réussir à gérer mon temps de l'année.
De l'année, oui, c'est vrai.
Et avant, c'était de la journée parce que il y a un truc que j'aime souvent dire, c'est que de 3 ans depuis l'âge de 3 ans,
tu suis l'école.
Un horaire en fait.
Ouais, t'as un horaire, t'as un
planning. T'as un horaire.
Exactement.
À la crèche, à l'école, université, tout ça.
Oui.
Et quand tu dis je me lance, vas-y, je démissionne, j'écris ma lettre, c'est parti. Fini, je suis libre, t'arrives chez toi.
Et, c'est bizarre.
C'est bizarre. T'as 25, ça dépend. Enfin, 25, 27, 28.
Ouais.
Et t'es là et tu dis, ouais, moi, je travaille plutôt la nuit. Puis après, tu te rends compte, finalement, ça te va pas, etc. Ouais. Personne ne t'impose des règles. Et donc, cette gestion de la journée. Et donc, ouais, Brian Tracy, qui est un auteur très reconnu là-dessus, il a ce truc où il t'accompagne. C'est là que j'ai découvert les podcasts et il t'accompagne Eat That Frog, donc mange cette grenouille.
Mange la grenouille.
Mange la grenouille. Donc, ça veut dire le truc le plus compliqué, le plus dur de ta journée dans ta liste, fais-le en premier. Et ça a tout changé sur ma vision de la fameuse to-do list.
Aha!
Tu vois,
le premier outil que les gens prennent pour gérer du temps, c'est la to-do list.
La to-do list. Je fais ma liste de tâches, pam, pam, pam. Mais en fait, c'est l'ordre de la to-do list
qui compte. C'est pas l'exhaustivité.
C'est ça. Et ça m'a fait remarquer un truc, c'est que, tu vois, c'est comme, faut faire attention aux tactiques. C'est-à-dire, on te dit, mais fais une to-do list. Ton manager va dire, fais une to-do list. Donc, tu fais une to-do list. Mais parfois, en fait, on te donne un outil sans t'expliquer comment l'utiliser. C'est comme si je te donne un équipement pour faire de la cuisine et puis j'attends de toi que tu sois un chef cuistot. Alors qu'il y a
tout un art derrière.
To-do list, quand vous faites une to-do list, il y a la première étape, c'est de lister et la deuxième étape, c'est de prioriser.
Si
tu n'as pas priorisé,
T'as pas fait de to-do list. T'as juste fait ce qu'on appelle une liste de courses. Moi, j'appelle ça une laundry list.
C'est ça. Et t'es frustré parce que tu la finis pas.
Tu la finis jamais. Et ça, tu donnes un traitement très important. C'est que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, la première règle qu'il faut comprendre, c'est que tu n'auras jamais assez de temps. Jamais. Il faut partir de ce principe. Et en vrai, je pense que c'est pas là pour tout le monde. C'est une sensation que tout le monde a au fond de soi, qu'on n'a pas assez de temps. Les gens pensent qu'en devenant entrepreneur, soudainement, ils auront plus de temps. Sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en vrai, ils auront souvent plus de choses aussi.
Ouais.
Et c'est là où je pense qu'il y a un truc qui est intéressant quand tu parlais tout à l'heure et qui m'a, moi, beaucoup marqué. Tu disais, il n'y a jamais eu de moment où tu as ce truc-là. Moi, j'ai eu l'impression qu'à l'université, tu as ce petit sentiment. Toi, tu n'as pas eu ce moment à l'université ou pas?
Ah oui. Non, c'est vrai que quand tu commences à avoir des horaires changeants, flexibles, oui.
De façon, là.
Lundi, c'est l'après-midi.
Voilà.
Vendredi. Et du coup, la période libre.
Il faut faire quelque chose.
Tu dois faire quelque chose. Mais souvent, il y avait quand même des travaux dirigés ou des trucs.
Toi, tu as fait ton. Toi, tu as ta fac au début. Tu étais où? Tu n'es pas à la fac, toi, au début?
Si, j'ai commencé par l'université.
Où? C'était
à Bordeaux.
À Bordeaux. Et à Bordeaux, tu n'avais pas ce sentiment, des fois, d'avoir. Moi, ça m'arrivait. Bon, encore, moi, j'étais à Dauphine. Donc, franchement, nous, on était chargés comparé aux autres facs. Tu avais quand même des fois où tu as des fois 2-3 jours où tu n'as pas de TD. En fait, parce que moi, je considérais les amphis. J'allais pas aux amphis déjà pour commencer.
Première étape.
Si tu enlèves les amphis, ça fait déjà beaucoup de temps libre.
Comme t'allais pas à l'école, au lycée, j'ai appris.
Mais ouais, bon, c'est une autre histoire. Ça, les gens qui seront. C'est mes deux dernières années que j'étais comme ça. Première et terminale, pas avant. Faut être très honnête. Mais du coup,
on attend Djeneba sur le podcast.
Exactement, pour le podcast pour qu'elle révèle ça. C'est terrible. Mais ouais, du coup, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui expérimentent ça. Ouais. Toi encore, tu es quelqu'un de rigoureux. Je pense que tu es allé aux amphis, tu es allé aux trucs.
Bon, alors, pour être honnête, ouais, enfin, l'amphi, bon, je ne saurais pas dire le pourcentage, mais je ne suis pas non plus le gars qui faisait les 100%.
D'amphi, ouais.
Mais grâce au réseau, tu récupères les cours.
Voilà, les professionnels.
Tu récupères les cours, mais c'est mieux d'écouter.
C'est mieux d'aller.
Parce que voilà, après, tu retiens mieux. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a, pour globaliser, c'est vrai que peut-être que à l'étude, dans vos études supérieures, pour ceux qui en ont fait, il y a peut-être effectivement ce petit changement parce que c'est peut-être moins rigoureux. Mais après, quand tu vas dans le milieu du travail à nouveau,
tu es à nouveau encadré.
Tu vois, tu es à nouveau encadré.
Et tu as tout à fait raison, parce que moi, ce que je voulais souligner en disant ça, c'est pour dire un peu, il y a une analogie, il faut que les gens comprennent. Mmh. Si vous avez été dérouté, parce que je connais des gens qui disent régulièrement, la fac, ce n'est pas pour moi.
Ouais.
En disant, j'étais trop libre et ça m'a fait perdre mon rythme.
Mmh.
À ces gens-là, j'aime bien dire, faites attention à l'entrepreneuriat alors.
Ouais.
Parce que c'est X fois pire.
Ouais.
Et c'est ça le point, c'est qu'il faut, il y a une notion de discipline qui est très forte.
Mm-hmm.
Mais il y a les outils. Comme tu as évoqué, il y a prioriser les to-do list. Toi, tu avais quoi d'autre comme autre outil? Je sens qu'à un moment, tu avais parlé de time docking.
Ouais, alors ça, c'est plus aujourd'hui.
C'est maintenant, ok. Donc, ouais, il y a une transition.
C'est plus aujourd'hui parce que maintenant, si tu veux, si je devais faire la to-do list, enfin, il y a la to-do list.
Ouais.
Donc, tout le monde sait faire. Après, il y a la priorisation.
Mmh,
et là, en fait, le time blocking est une stratégie de gestion du temps qui me permet d'ajouter une troisième couche qui consiste à bloquer toutes les périodes de ma journée, tous les temps de ma journée sans exception. Mmh. C'est-à-dire que ces éléments-là que j'ai mis dans une to-do list, en fait, vont occuper un espace dans ma journée.
Mmh.
Donc, si j'ai prévu d'écrire des mails de 13h à 13h30, je vais créer dans mon agenda 13h à 13h30 mail. Parce que si tu ne le fais pas, c'est vide. C'est vide.
Et tu flottes.
Et tu flottes. Et
tu te laisses emporter par ce qui est en cours.
Voilà. L'idée, c'est d'être plus comme en automatique.
Mm.
Et ce qui est très important dans cette stratégie-là, c'est qu'à 13h30, si t'as pas fini, tu dois passer à la suite.
C'est ce que j'allais dire.
Tu ne dois pas déborder.
Il faut se rendre compte. Et limite, il faut après se dire quel truc tu as passé pas assez de temps, trop de temps.
Voilà.
Au contraire. Parce que c'est ça. Après, je pense que comme la priorisation pour une to-do list, le time blocking, après, il y a l'analyse.
Ouais, l'analyse est très importante.
Très importante.
Il y a différents niveaux d'analyse.
Aussi. Il faut que tu te dises après, derrière, typiquement, les gens ne se rendent pas compte. Mais moi, je sais que mes équipes, il n'y a pas longtemps, parce que nous, en remote, c'est encore pire.
Mm.
Parce que nous, en remote, il y a vraiment personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même de bureau, il n'y a pas cette notion. Donc, nous, c'est encore plus violent le niveau de discipline qu'il y a. Et souvent, mes équipes, ils étaient très choqués par mon agenda. C'est-à-dire qu'en fait, ils trouvaient que mon agenda, et j'ai dû leur montrer, c'est que dans un agenda Google, notamment, je trouve que les gens n'utilisent pas toutes les fonctionnalités dans le sens où tout n'est pas des rendez-vous.
Ouais. Tu peux te bloquer du temps.
Du temps de concentration, par exemple. Ou je peux aussi bloquer du temps away. Donc, un autre secret que moi, je donne aux gens sur le time blocking, c'est qu'il faut aussi faire du time blocking sur les choses personnelles. Ça, c'est un autre truc qui est chez moi important. En tout cas, quand tu es en remote, tu ne peux pas dire « je mets que les choses pro dans l'agenda et pas les choses perso ».
Ouais.
Parce que tu auras forcément des choses perso qui vont influer sur ta façon de planifier le pro.
Si tu dois faire un paiement pour telle facture,
exactement,
il faut le mettre.
Ou tu dois aller à la banque tel jour. Parce que le problème des gens en remote, c'est qu'ils ont tendance à vouloir profiter du remote pour régler des choses en journée que les autres n'arrivent pas à régler. Hop. On s'arrête pendant deux petites minutes parce qu'il faut que je vous parle. Si tu écoutes ce podcast ou tu le regardes, c'est que tu es quelqu'un de différent, qui s'intéresse aux choses importantes et qui veut aller dans la profondeur. Mais je pense que plus que d'écouter et juste de consommer, ce qui nous distingue, on en a parlé dans les différents épisodes du podcast, c'est comment on agit. Et comment on agit, c'est sur quoi on investit. Je pense que la meilleure solution pour devenir meilleur, c'est d'investir sur vous et surtout d'être avec des personnes de qualité. Donc je pense que vous aimeriez bien causer avec Caillé ou moi, échanger quotidiennement. Et pour ça, il faut rejoindre la tribu Telegram. Parce que dans ce groupe, ce n'est pas un groupe WhatsApp comme un autre. Déjà, tu peux nous parler à nous tous les jours. C'est cool. On échange sur tous les sujets dont vous voulez. Mais surtout, il y a des gens d'exception, de tous les pays, de tous les bords, de tous les types, de tous les métiers qui sont passionnés par une seule chose, s'améliorer tout en étant léger et essayer d'être heureux. Donc, ça ne coûte que 100 euros. Et vous savez que je parle de chiffres, c'est important. Si 100 euros vous permet d'être une meilleure personne avec des gens de qualité, je pense que c'est un deal à ne pas louper. Donc, j'espère vous retrouver très vite dans la tribu Telegram. Cliquez dans les liens dans la barre et à très vite. Aller à la banque tel jour, parce que le problème des gens en remote, c'est qu'ils ont tendance à vouloir profiter du remote pour régler des choses en journée que les autres n'arrivent pas à régler. Tu vois, par exemple, tu vas te dire, ah, mais moi, je peux profiter pour aller retirer de l'argent à cette heure-là parce qu'il n'y a personne. Mais moi, je le mets dans mon... T'as mon truc away, retirer de l'argent. Et ça choquait mes équipes en disant, mais pourquoi tu le mets? Je dis, mais parce que c'est un temps qui, en plus, si je ne le mets pas, un, ça fout en l'air tout mon calcul. Parce que je vais mettre autre chose qu'en fait, je n'ai pas fait vraiment tout ce temps-là. Et surtout, ce qui, moi, je trouve qui est intéressant, c'est quand je fais mon analyse à la fin de la semaine, souvent, je regarde, je le faisais beaucoup, beaucoup au début, quand on a eu nos premières équipes. Maintenant, je le fais un peu moins. Chaque dimanche, je regardais la semaine passée. Et je regardais dans mes blocs lesquels je considère avoir été effectifs. Ceux où je peux te dire à la fin de la semaine, ouais, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Et tu as des trucs, et là, tu commences à marquer. Moi, j'ai remarqué par exemple qu'il y a des blocs. Tout ce qui était pour moi les choses qui étaient interaction avec les gens, c'est là où j'ai réalisé le fameux sujet du chronotype. Ce que tu évoquais tout à l'heure discrètement en disant, j'aime travailler la nuit, j'aime travailler le jour. Tout le monde a son truc. Moi, j'y crois plus du tout à ce truc-là parce que j'ai remarqué en fait, tu as un truc peut-être que, qui est facile pour toi. Mais ça dépend des tâches. Par exemple, moi, avant, j'étais le gars qui aimait bosser la nuit. Mais en fait, ce que j'ai compris, ce n'est pas que j'aimais particulièrement bosser la nuit. C'est juste que j'aimais bosser sans interruption.
Exactement. Donc, du coup, tu pourrais bosser de 5h du mat à 7h du mat.
Et c'est ça la réalité. Ouais. Sauf que un autre truc qui me posait problème, c'est que j'aime bien quand même, même si je reste un gars un peu misanthrope sur les bords, j'aime bien sociabiliser avec les gens. Genre, j'aime bien les dîners. J'aime bien regarder des séries, j'aime bien des trucs comme ça. Et ces trucs-là, tu les fais en général en fin de journée, c'est ça qui te fait te coucher tard. Donc, j'ai dû réaliser assez vite quand je suis passé de ce que… Alors, on devrait mettre dans le lien, on mettra en lien le maker schedule, le manager schedule de Paul Graham. Il explique que l'agenda, quand tu es quelqu'un qui développe, qui vend, qui exécute, n'est pas le même que quand tu es quelqu'un qui manage des gens.
Ouais, totalement.
Et en fait, quand je suis devenu quelqu'un qui passait plus de temps à manager, j'ai réalisé qu'en fait, les tâches, à chaque fois que je n'arrivais pas à faire, c'était celles où je calais mes rendez-vous avec mes employés en fin de journée.
Ah oui, oui, oui.
Parce qu'ils sautaient quasiment systématiquement.
Ouais.
Chaque fois, parce que j'avais toujours un truc, non, il faut que je finisse ça. Ça, je vais finir. Ouais. Ça, c'est important. Ça,
c'est un vrai point pour les managers. Parce que je pense que les managers ne se rendent pas compte à quel point ce petit point de 15, 20, minutes. 25 minutes. Que tu dis à ton équipe, désolé, on le fera plus tard.
Oh, ça change tout.
Ça change beaucoup de choses. Ouais. Parce que tu ne te rends pas compte, la personne va dire OK, mais ça se trouve, la personne avait misé beaucoup sur ce moment.
Ouais.
Sur ce moment.
Et souvent, comme on dit, tu sais, il y a une métaphore qui dit ouais, sur la trajectoire d'un astéroïde. Des fois, il suffit d'un demi-degré que toi tu aurais rééquilibré pour que tu te retrouves à avoir une collision des milliers de kilomètres plus tard. Des fois t'as tes équipes, si tu zappes le rendez-vous cette semaine là et tu te dis ouais vas-y on reporte à après demain, en fait tu te réveilles à la fin de la semaine et ils ont fait un truc qui fait que la semaine est naze. Mais c'est pas de leur faute, parce qu'en fait souvent ils étaient prêts à te poser la question, ils avaient conscience du risque, mais tu as annulé le truc parce que toi, pour toi, il n'y avait pas de truc vital.
Ouais.
Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait non, si je considère que mes employés, que leur travail est la première base de mon évaluation personnelle de mon succès, je dois commencer ma journée par ça.
Ouais. Mais ça, c'est un truc que tu m'avais dit, effectivement, c'est que, en gros, ça devrait être facile pour un chef d'entreprise de noter ses managers.
Ouais.
Il devrait voir les notes de son équipe.
C'est simple. Ouais, c'est un truc que moi, je fais chez nous.
Du coup, si tu transmets ça, forcément… Le manager,
bah oui,
il va faire attention
à ses équipes,
au one-to-one, au perf, point, aux lectures, parce que il faut lier ça.
Performance d'un manager, oui, c'est la performance de ses équipes.
Ouais.
C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, toi en tant qu'IC, on appelle ça, individual contributor en anglais, tu peux être un très bon individual contributor, mais tu es un mauvais manager si tes équipes font de la merde.
Exactement, et surtout si elles ne progressent pas.
Oui, et c'est là où, du coup, je pense que le maker schedule est des gros blocs de 3 à 4 heures de temps ininterrompus pour aller en profondeur dans un sujet.
Ah, le fameux deep work.
Le deep work, exactement.
Ça, t'as plein de livres dessus. C'est à la mode, ça.
Ah, mais en général, c'est très à la mode, surtout pour les créatifs,
ouais,
les devs, tous ceux qui, en fait, ont besoin en fait, de périodes ininterrompues. Et moi, j'étais beaucoup là-dedans parce que naturellement, ma passion, c'est le chiffre.
Donc, ouais, ça, c'est un truc.
Ça, c'est du deep work. C'est-à-dire que typiquement, je peux être très à l'aise pour switcher de contexte à l'autre. Mais quand je suis en analyse de données, il ne faut pas me parler. Genre vraiment, c'est-à-dire que j'ai besoin de... En fait, même si tu me parles, je ne saurais pas t'entendre. Kader peut témoigner, parce que quand on vivait ensemble et qu'on travaillait dans notre bureau, les gens, je me souviens une fois, Guillaume, du coup, notre CFO aujourd'hui est venu, il était choqué parce qu'il est resté dans la pièce avec nous pendant 5 heures, on ne s'est pas dit un mot. Et à un moment, il nous a dit, mais les gars, vous ne vous parlez pas. Et Kader et moi, en fait, tous les deux, on s'est sorti, quoi ? On dit, de quoi tu parles, en fait ? Il nous a dit, bah, vous, depuis ce matin, vous n'avez pas parlé.
Ouais.
Et on a dit, mais tu veux qu'on se dise quoi ? Il me dit, mais vous bossez là ? On dit, oui. Et en fait, tu sais, il ne comprenait pas. Parce qu'en fait, il se disait, lui, dans son. Parce que lui, Guillaume, du coup, il était dans un monde où il était responsable administratif sur des chantiers.
Ouais.
Donc lui, son travail, c'est aller choper telle personne pour savoir tel coup, telle personne pour confirmer si on est dans les temps. Donc c'était dans l'interaction.
Ouais.
Donc quand il nous voyait, nous, en mode autiste, là, comme il appelle ça, on est là tous les, pendant 5 heures, c'est-à-dire que tu nous vois, on est côte à côte, pas un mot. Ça ne veut pas dire qu'on va pas collaborer à des moments précis. Mais ça, c'était le maker schedule. C'est vraiment un truc qui est spécifique. Et je pense qu'au début de l'entrepreneuriat,
tu as besoin de ça.
C'est très souvent ça.
Totalement. Et tu vois, tu faisais la comparaison avec les études.
Ouais.
C'est comme à un moment donné, tu dois aller à la bibliothèque. Oui. Ou je ne sais pas. Enfin, à un moment, les examens arrivent.
Non, il faut se donner. Non, quand les partiels arrivent, et tout le monde connaît ça. Les gens qui découvrent le programme.
Tu ne peux pas faire 30,
deux semaines avant les partiels. Ouais. En fait, ah merde, c'est ça cette matière.
Ouais. Non, tu dois être à fond. Mais ça, c'est quelque chose que je suis aussi content d'avoir. C'est-à-dire, quand il faut focus, je vais me focus.
Ouais.
Mais
c'est pas la règle. Ce que je veux dire aux gens, c'est que...
Non, ça peut pas être la règle, mais tu dois connaître ta capacité à aller en profondeur de manière ininterrompue. Et vaut mieux effectivement le tester au début.
Oui.
Comme ça, tu sais... tu connais un peu ta force.
Ouais.
Tu sais, parce que l'erreur que les gens font, c'est qu'ils se disent, si ça chauffe, tu vois, bon, je bosserai à fond et puis je vais rattraper, tu vois.
Ah ouais, non.
Je vais rattraper. Mais en fait, quand tu te connais bien, tu découvres que au moment où faut rattraper, en fait, tu avais mal estimé le truc. Et donc, ça te retombe dessus, tu livres pas à temps, etc.
Ouais. Et donc, moi, je pense qu'il y a plus dangereux même. Souvent, j'expliquais, moi, ce qui faisait que j'ai arrêté très vite de faire le truc de partiel, dernière minute, tu te donnes à fond. Bon, je l'ai fait mes deux premières années, mais j'ai arrêté après. Parce que je me suis rendu compte après que tout ce que tu ingères de force en une période aussi réduite ne reste pas. En tout cas, ça reste très peu. Si tu regardes bien, et c'est souvent ce que je dis aux gens, ce qui est dangereux en entrepreneuriat, c'est que si tu fais pareil, même le deep work que tu vas faire là, à ce moment-là, n'aura pas une durabilité aussi grande que les choses que tu fais régulièrement.
Oui, après, ça c'est...
Non, mais c'est dur à entendre pour beaucoup de gens parce qu'ils pensent qu'en fait, ils se disent, je réponds aux besoins maintenant. Je vais donner un exemple. Moi, à un moment, je m'étais mis en deep work réseaux sociaux. Je voulais parce que je ne connaissais pas Facebook, je ne savais pas comment ça marchait. Et en fait, si jamais je m'étais amusé juste à dire, je passe un week-end, je fais que du Facebook pendant un week-end et après, je déduis une stratégie, je ne pense pas qu'au bout d'un moment, tu réussis à faire des espèces de ce qu'on appelle les connexions nerveuses. En fait, ton cerveau commence d'un coup. Plus tu le fais souvent, plus c'est un truc que naturellement, tu repères partout. Et il faut le faire pas seulement longtemps, il faut aussi le faire souvent.
Ouais.
Et c'est là où j'insiste, quand tu as un maker schedule en tant qu'entrepreneur, il faut faire très attention à ne pas juste dire « je ne fais ça que pendant une courte période ». Il faut te dire « je peux faire du deep work sur un sujet un mois, par exemple ». Au moins 21 jours, je dirais. Il ne faut pas se dire, je vais faire ça une semaine et après, j'arrête. Par exemple, quelqu'un qui, comme toi, dit, ah ben moi, je veux closer ce type de client. Donc, pendant une semaine, je vais essayer à fond.
Ouais.
Et après, ils abandonnent. Et je vois beaucoup de gens, beaucoup de gens qui, en fait, te disent, j'ai tenté à fond pendant un moment, j'étais à fond dans ça. Et aujourd'hui, je n'y arrive plus. Je dis, mais tu as fait ça pendant combien de temps à fond?
Ouais, c'est... Ça, c'est aussi la phrase de...
Mais tu vois ce que je veux dire ou pas?
De Gary, il dit... ouais, j'ai contacté...
Tonton Gary, Gary, les gens, mettez ça en commentaire, c'est important.
J'ai contacté plusieurs personnes, mais personne veut m'accompagner, veut me mentorer. T'as contacté combien de personnes? Ah, 12. Il dit, contacte-en 200.
On en parle, voilà, après on se reparle. Et pire, 200, moi ce que je dis souvent aux gens, par exemple, voilà, contacte-en 200, ne le fais pas en une seule soirée.
Ouais.
T'as des gens...
Développe une habitude.
Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que les 200, au fur et à mesure, tu vas t'améliorer Si tu le fais les 200 de la même soirée, tu seras la même personne contactée 200 fois de la même manière. Si les 200, par contre, tu les coupes en 20 par jour pendant 10 jours, je te garantis que ton taux de réponse le 10e jour sera meilleur que le premier.
Et puis, tu vois, ça, ça rassemble aussi beaucoup d'épisodes auxquels, sur lesquels on a échangé.
Ouais.
Et ça me fait penser aussi au fameux livre Atomic Habits.
Ah, oh, bah oui.
Le premier livre du book club, du club du Telegram.
Exactement. Pub, petite pub du Telegram. Et c'est important parce que vous l'avez lu tous ensemble. On n'a pas encore fait le débrief. Mais...
C'est vrai, on n'a pas encore fait le débrief. Mais c'est vrai que dans le groupe Telegram, donc dans la communauté. Il y a maintenant un book club dont on est très fiers.
Ouais.
Et on a fait des zooms. Voilà, on lit le même livre, on fait des zooms, on a débattu. Et c'est vrai que ce livre, il parle beaucoup d'identité. C'est-à-dire
très important. Je pense que c'est le truc le plus marquant pour moi.
Tu vois, il parle des habitudes, bien sûr. C'est le titre du livre. Mais je fais le parallèle avec ce qu'on dit là, parce que tu disais, la personne, au lieu d'envoyer 200 mails un jour, toi, tu dis, envoie un mail tous les jours pendant 200 jours.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, tu as défini un objectif. Tu développes une habitude. Mais ce que James Clear dit dans le livre, c'est que travaille aussi sur ton identité. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je veux contacter 100 personnes, dis-toi, je veux être la personne qui est en contact avec des personnes d'un haut niveau tous les jours.
Tous les jours, exactement.
Et donc, quand tu dis « je suis cette personne-là », qu'est-ce qu'elle ferait? Et donc, tu fais des choses qui vont dans ce sens. Tu vois.
C'est extrêmement…
J'ai trouvé ça très, très fort, très puissant. Et il y a beaucoup de trucs dans le time management qui sont en lien finalement avec qui tu es, tu vois. Le time management, il est, tu vois, que tu sois photographe, que tu sois, DJ, que tu sois
cuisinier,
la gestion du temps, tu vas même être jugé sur ta façon dont tu gères le temps. Si tu arrives en retard, si tu livres tes photos en retard,
que tu promets que tu ne délivres pas.
Ta réputation, elle est à, je sais pas, 50%.
Oui.
Basé sur ta capacité à respecter tes engagements.
Oui.
Et donc, c'est lié à ta gestion du temps.
La fiabilité, c'est la base de ta réputation.
C'est la fiabilité. On disait dans le networking, si tu discutes, tu fais un network et tu dis demain, du coup, je te transfère ce mail, crois pas que parce que tu l'envoies 4 semaines après,
c'est quand même bien.
C'est quand même bien.
C'est
naze. En fait, la personne t'a catalogué. Elle va jamais te le dire.
Il n'y a pas besoin même.
Elle va jamais te le dire, mais elle va dire c'est pas fiable.
Oui.
Moi, quand je suis dans une période où c'est chaud, parce que je sais pas, imaginons, y a un livrable à rendre et y avait un truc à faire qui, en fait, je me rends compte à quelques temps du livrable que c'est pas fait. Des trucs, tu vois, super compliqués, des moments compliqués. Au moment où je vais devoir faire appel à la personne qui va m'aider, beaucoup de gens vont s'éliminer.
Naturellement.
Naturellement. Mmh. Parce qu'en fait, je vais éliminer toutes les personnes où j'ai un moindre doute sur leur capacité à respecter l'engagement. Parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas me permettre.
Et c'est souvent tes meilleurs deals.
Ouais.
Les meilleures opportunités. L'autre fois, tu m'as dit que tu as fait une passe à une fille là-dessus sur l'IA. Sur la 3D.
Oui, sur la 3D.
C'est
sur la 3D. Ouais. Alors là, c'était un pari parce que je n'avais jamais travaillé avec elle. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, je me surprends à chaque fois quand je suis dans ces situations-là, le peu de gens, finalement, auxquels tu peux, aller et tu peux dire, gars, là, c'est chaud. Tu vois, et cette personne va dire non, j'ai compris que c'était chaud. Tu vois,
c'est super important ce que tu dis là.
C'est...
Mais en plus, ce que tu décris sur l'identité avec
James Clear, crédibilité.
C'est essentiel sur l'idée de la crédibilité. Et même pour toi, lui, il en parle beaucoup dans le cadre du changement en disant si tu dis je veux être un entrepreneur, il faut que tu aies la vie d'un entrepreneur.
Ouais.
On en a parlé avec Philippe en disant ça ne commence pas le jour où tu crées ta boîte.
On en a parlé avec Fabrice aussi.
Fabrice aussi, c'est très vrai. L'épisode de Fabrice, il expliquait que tu ne peux pas te lever en un coup. Je suis entrepreneur, je travaille à fond, mais quand j'étais salarié, j'étais cool. Ton identité doit changer avant. Et ce que je veux souvent dire aux gens, c'est que tu ne peux pas changer ton identité. Tu ne peux pas t'améliorer juste avec des intentions. C'est tes actions qui te changent.
Ouais,
tu commences par dire « je vais me comporter comme quelqu'un qui est-ce qui je veux être. Mmh. Et ensuite, c'est tes actions qui définissent ton identité. Mmh. Parce que tu te forces à tenir un niveau, et c'est ce qu'on avait dit pour la procrastination, tu te forces à tenir un niveau. Mais ce qui est difficile pour beaucoup de gens d'identité, je pense, c'est qu'ils n'ont pas forcément souvent la facilité de réaliser l'importance du changement pour eux. Mmh. Moi, je pense que sur le timing, notamment, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir. Entrepreneur, c'est une chose, mais moi, je ne sais pas si j'ai déjà parlé avec toi de ma plus grande défaite professionnelle quand je me suis fait virer.
Il me semble.
Je pense que sur le podcast, on n'a jamais parlé de quand je me suis fait virer après 6 mois de période d'essai de mon premier boulot.
Ouais, en tout cas, tu m'as dit oui.
Et c'était la plus grosse dépression professionnelle que j'ai eue de ma vie. Je me suis fait virer après 6 mois. Mon premier taf où j'avais fait le malin quand j'ai acheté une voiture là. Mmh. Comme j'ai dit à Philippe, où j'ai fait le kéké partout.
Tu en as parlé dans le groupe Telegram.
Voilà, je me suis affiché comme jamais. Parce que j'étais au fond du gouffre, parce que tu t'imagines, c'est moi qui paye mon loyer. Mmh. Tu sors de Dauphine, tu fais le kéké, tu partages ton premier salaire comme tout bon malien à toute la famille pour dire l'enfant a enfin réussi. Et 6 mois après, on te dégage comme un malpropre. Et pour parler de timing, c'est ce moment-là où, la première fois de ma vie, j'ai compris l'importance de ce que tu disais sur moi, ce que j'appelle le crunch time. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand j'ai été pris, donc j'étais viré de chez KPMG, Price m'a pris parce que j'avais fait un entretien chez eux avant, mais ils savaient tous que j'avais la réputation d'avoir été viré de chez KPMG et que j'étais viré de KPMG parce que je n'étais pas un gars rigoureux. Mm-hmm. Mais Kai, à cette époque de ma vie, c'est-à-dire que la rage que j'avais faisait que j'ai décidé, je serais toujours le premier au boulot, le dernier à partir. Mmh. Et ça, c'est un truc qui, normalement, beaucoup d'employés le voient comme étant limite ridicule. On n'est pas là pour juste être jugé autant. Même moi, aujourd'hui, je dis ça. Mmh. Mais à cette époque de ma vie, c'était ce qui était nécessaire. Mmh. Je devais casser l'image que j'avais, je devais casser l'identité que mes actions précédentes avaient montré, qui était le mec tranquille. Mmh. Parce qu'avant, j'étais le mec, j'avais fini mon taf. Je demande, est-ce qu'il y a encore du boulot ? Mon manager me dit non. Je dis ok, je me mets devant mes mangas et je lis dans mes mangas devant tout le monde. C'était ça.
Ah, c'est ce que tu... Quand tu t'es fait virer, là.
Le KPMG, c'est ça. C'était le mec qui...
T'as refait ce que tu faisais au lycée.
Exactement. Tu vois, la même identité. Et c'est ça que j'ai expliqué. Tu vois ce que je te disais ? L'identité des gens ne change pas. Mais certaines personnes ne se rendent pas compte que, en fait, c'est tes actions qui font qu'on te définit l'identité. Mais quand je suis arrivé chez Price, je t'ai dit, c'était simple. J'étais au boulot à 7 heures. Et même si je n'avais rien à faire, Kai, je restais à travailler, je me trouvais du travail jusqu'à ce que la dernière personne soit partie. La secrétaire ferme la porte, je suis dedans. Mmh. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Mmh. La période d'essai est passée, j'ai continué jusqu'au moment où j'ai eu ma promotion pour devenir senior. Mmh. Et là, j'ai arrêté. Mmh. Mais la conséquence de ça, c'est que même après, bon, mes associés, si tu demandes à mes collègues, genre Jonathan et Christian, eux, ils te diront qu'après ça, je venais des fois à midi au boulot. Mmh. Juste pour le déjeuner. Mais ma réputation, c'était Moulay. Mmh. C'est le premier au boulot. Le dernier appartient. Même si des années après, c'était plus vrai.
Ouais.
C'était ma réputation.
Mmh. Hey, j'ai vu des gens comme ça, là.
Mais oui, c'est ça.
Vivre sur leur réputation.
Exactement.
Du coup, les nouveaux ne trouvent pas ça très juste. Mais lui, là, pourquoi il est intouchable comme
ça? Exactement, pourquoi il est intouchable? Et ça, c'est dans les boîtes. Souvent, les gens ne comprennent pas d'où ça vient.
Ouais.
Mais c'est encore une fois la gestion du temps. Mmh. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte d'à quel point savoir mettre la gomme, savoir mettre le crunch time, savoir dire « Ok, maintenant, c'est maintenant. Mmh. » Genre dans ma carrière, c'est maintenant, c'est maintenant. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'à cette époque de ma vie, il n'y avait pas de place pour autre chose. Mmh. Je me levais, je dormais en pensant « Il faut que ce boulot, je le garde. » Pas de vie sociale. Le week-end, je dormais pour pouvoir tenir la semaine. J'avais qu'une seule objectif, j'avais pas de place pour autre chose. C'est pas tenable éternellement, mais le crunch time ne l'est jamais.
C'est, ce que c'est là que t'as appris ce que ça voulait dire de faire ce qu'il y avait à faire.
Exactement.
Pour pouvoir faire ce que tu veux faire.
Exactement. C'est exactement. C'est quand tu es prêt à bouffer cette putain de grenouille et que tu te dis ok, maintenant je veux être cette personne, je veux être digne de ça, et que tu ne laisses plus aucune place à la moindre hésitation, doute. Il n'y a plus de sentiments. C'est juste de l'action pure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas trop défini le crunch time. Mais pour moi, tout le monde dans sa vie doit se poser la question, c'est quoi mon crunch time? Je doute que ce soit raisonnable de se dire, dans la vie d'un entrepreneur, tu ne peux pas avoir une année sans crunch time.
Non.
C'est impossible.
C'est impossible.
Mais les gens, je pense qu'en dehors, ne se rendent pas compte qu'on a ces moments-là.
Non, parce qu'en fait, tu vois, c'est comme souvent quand il y a... quand il y a Adicom Days, ça me fait toujours rire parce que forcément, je vais mettre une bonne tenue, il y a tous les médias, je fais plein d'interviews, etc.
Tu fais plein d'interviews, ouais, par exemple.
Et en fait, je sais que dans la tête de beaucoup de gens, c'est ce qui reste pendant toute l'année.
Pour toute l'année, c'est ça la vie de Kaï.
C'est ça, tu vois.
Exactement.
Et bon, c'est marrant. Après,
toi aussi, t'as ça. Les gens pensent que t'aimes bien la presse, que t'aimes bien.
Oui, enfin, bah, après.
Why not? Mais c'est
oui,
pas.
Oui, why
mais
not?
C'est pas,
mais ce que je veux dire, c'est que.
C'est pas ce que tu fais.
Ouais, mais après, c'est le jeu. Moi, je sais comment ça fonctionne, comment le cerveau humain fonctionne, la valeur perçue. On fait tous ça, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, quand tu vois. Je sais pas, regarde, enfin je prends un exemple pour faire comprendre. Tu vois Stromae,
ouais,
là il est revenu,
ouais,
il a fait son album, il cartonne, enfin ouais, les gens ont oublié déjà qu'il a fait 7 ans sans rien faire, tu
oui
vois.
C'est vrai, on dirait pour eux c'est un artiste qui sort tout le temps des trucs, tout le temps des hits.
Exactement. Et donc quand t'as aussi, par exemple, Jay-Z, début de sa carrière, pendant 10 ans il a fait un album tous les ans. Ouais, et d'ailleurs, quand il a produit Rihanna, il a reproduit la même technique, album tous les ans. Mais du coup, qu'est-ce que tu vois pendant l'année? Tu vois les clips, tu vois les concerts, tu vois les photos dans la presse. Donc pour toi, c'est sa vie toute l'année. Alors que pour faire un album tous les ans, tu dois être au studio pendant très longtemps.
Beaucoup de temps au studio. Oui,
sans être coiffé, sans être maquillé,
mais
sans être machin.
D'ailleurs, c'est là où j'ai pris ce réflexe de ne pas me couper les cheveux quand je suis en crunch time.
Ah oui, c'est Jay-Z qui faisait ça.
C'est Jay-Z qui faisait ça. Il ne se coupait pas les cheveux tant que l'album n'est pas sorti.
C'est ça. Et donc, effectivement, il y a ce qui est visible, ce qui n'est pas visible. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est effectivement ce que tu appelles le crunch time. Il y a des moments intenses que tu arrives plus ou moins anticipés avec le temps qui passe.
Ouais.
Moi, ce qui me concerne, ça va être...
C'est quoi tes crunch time? Ouais,
les ouais toi, je vais avoir sur des gros appels d'offres. Bon, aujourd'hui, je ne travaille pas sur tous les appels d'offres, mais on va dire sur les plus gros appels d'offres.
Ça, tu sais que quand ceux-là, ils sortent, mais ceux-là, tu n'es pas au courant de quand ils sortent, les gros appels d'offres.
Non.
Ça, c'est surprise.
Non, mais maintenant, à force justement de travailler sur la data, j'arrive quand même à savoir les périodes.
Ah, il y a des périodes où les appels d'offres sortent?
Oui, il y a des périodes, des appels d'offres sortent. En fait, si tu veux, dans le milieu de la communication, les budgets pour l'année à venir sont faits en octobre, novembre de l'année précédente.
D'accord.
Donc, de octobre à décembre, les marques font leur budget. Elles te préviennent plus ou moins là qu'il va y avoir un appel d'offres ou elles ne te préviennent pas, mais tu sais que janvier,
ils
quand ils ont
budget,
fini de valider, etc., à partir de mi-janvier, mi-février, tu as des trucs qui tombent. Et plus, nous, ce que j'ai constaté après, c'est que plus notre exposition, notre réputation augmente, mais plus, en fait, tu as.
Ah, des propos, de l'entrant, des appels d'offres qu'on te sollicite toujours
exactement.
En février et janvier.
Donc, c'est vrai que d'un côté, je sais pas qui va venir vers nous, mais. Psychologiquement, je prépare voilà, mon environnement. Mais maintenant, aujourd'hui, après, bon, on est une soixantaine, je fais pas tout.
Oui, c'est clair.
Tu vois, je fais pas tout. Mais comme c'est important quand même, aujourd'hui, dans la structure, je suis quand même responsable du taux de réussite, tu vois, des appels d'offres.
Ouais.
Donc, du coup, je vais quand même, tu vois, contrôler à minima. La méthodologie, tu vois, pas forcément le fond de tout ce qui est dit, mais la méthodologie, la manière de facturer, etc. Et ça,
c'est vrai que même ça, c'est
voilà. Et donc, tu peux te retrouver dans une situation où je sens, alors parfois c'est sans pouvoir l'expliquer, je sens que sur ce truc là, il faut que j'intervienne, l'équipe galère. En fait, parfois, l'équipe ne remonte pas l'alerte à fond. Mais avec l'expérience, tu arrives à sentir. Et les appels d'offres, il y a une deadline.
Toujours.
Donc là, je sais que je vais y passer, tu vois, je vais passer peut-être une nuit par-ci, etc. Moi, en général, je préfère surtout me lever très tôt.
T'es un mec de toi.
Voilà. Mais ça m'est arrivé récemment de faire un truc que j'avais.
Les gens ont vu les stories à 22h que tu as posté. Dans...
22h, c'est rien.
Mais c'était 22h, c'est rien. Ce que j'ai dit, 22h, c'est. Non. Pour beaucoup de gens, c'est. Non, mais les gens qui veulent être en mode entrepreneur lifestyle, je veux gérer mon temps.
Non, 22h, c'est rien. Mais après, c'est pas non plus 22h tout le temps. Hein, ouais. Mais je dis, voilà, quand on est dans un crunch time. Mais il y avait un soir où j'ai carrément, pendant pratiquement toute la nuit, étudié. Ouais. Étudier en fait la manière de réfléchir qu'a le client. Alors, je ne le connaissais pas, mais je sais que ce type de structure travaille avec tel type de structure. Donc, j'ai étudié en fait tout son environnement.
Et c'est ça qui fait
utiliser
la
les mêmes termes, en fait.
Pour utiliser les mêmes références, termes, comme tu disais.
Et ensuite, maintenant, apporter notre
touche à vous.
Voilà. Et donc, ça m'arrive parfois, moi, je vais faire du crunch time sur, tu vois, je ne suis pas un gars qui, peut-être, je ne vais pas me former, genre, chaque jour, je fais un peu, mais parfois, je vais me former à fond sur un truc
ouais,
tu vois, qui va me servir et que je vais après
implémenter.
Et donc, voilà, donc j'ai des appels d'offres, j'ai... les périodes aussi parfois de recouvrement, c'est-à-dire
alors
que
oui, c'est ça
c'est un
mon
vrai
ami
sujet dans le B2B
parce que les gens crachent sur les petits business là, mais mon ami les grosses boîtes là
c'est voilà, on arrive à avoir des montants intéressants et on est toujours réglé, c'est pas le problème, mais
il faut aller chercher les gens,
la trésorerie, voilà, on a un process en fait où voilà, si c'est pas arrivé là, un tel travail, etc. Et quand c'est arrivé au-dessus d'un truc, en fait, ça me remonte pour que
toi tu ailles contacter la personne au-dessus pour que la facture avance.
Voilà, exactement, tu vois, enfin j'essaye de voir où est-ce que ça en est, etc., tu vois. Mais du coup, ça peut être un gros moment de tension parce que il se trouve que et notamment pendant les vacances d'août
parce que là t'es en plein dedans
surtout les fins de mois
mois c'est important
parce que en fait le truc, enfin nous aujourd'hui on a quand même beaucoup travaillé pour structurer notre chiffre d'affaires de telle sorte qu'on est équilibré. Tu vois, c'est pas genre on dépend de un client, etc. Mais il se trouve que avant je trouvais que c'était par hasard, mais j'ai bien analysé. Il y a des moments où à peu près tous en même temps il y a des retards.
Ah ouais, pendant les vacances,
c'est super chaud. Ouais, et donc c'est le sujet des vacances. Et donc
donc pendant les vacances, toi tu taffes plus que les autres parce que tu, à ce moment-là, il faut que tu te débrouilles pour...
Ouais, à part quand on a pu tu vois si... En fait non, c'est dans le cas si tous
le font en même temps,
tu vois.
C'est là où c'est chaud.
Là en ce moment il y a un peu ça, mais on a déjà eu cette année où tu arrives avant les vacances les choper, dis les gars, avant de partir.
Oui, pardonner.
Voilà.
Valider un peu la facture. On va tous partir en vacances en paix. C'est vrai.
Tranquillement. Donc, ça, c'est tension parce que c'est une de mes priorités absolues. Il faut que les salariés ne sentent pas.
Ces fluctuations. Mais c'est marrant parce que,
tu vois, je suis assez.
C'est toi qui l'absorbe, en fait, ça.
Oui.
Toi et la finance. Mais ils ne savent pas ça.
Non, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça parce que, voilà, ils travaillent et puis voilà. Et puis, est-ce que c'est vraiment leur rôle? Ils ont aussi un rôle dans ce truc-là puisqu'on les sensibilise, mais ce n'est pas dans leur rôle. Donc, on doit travailler là-dessus.
Vu ma vie d'entrepreneur, c'est ça la vérité que les gens ne voient pas, en fait.
Après, je ne vais pas...
Bon, après, j'imagine que c'est un stress aussi parce qu'eux, ils ne voient pas le stress qu'il y a derrière. Ouais. En plus, c'est un stress qui est isolé, celui-là. Tu peux pas en parler.
Ouais, c'est pas évident. Après, tu parles pas. Tu en parles avec ton équipe rapprochée.
Ouais.
Et puis après, en fait, le truc, c'est que je considère que on voulait trouver des solutions.
Oui.
En fait,
pas de ramener les problèmes aux gens.
C'est ça. Enfin, en tout cas, il y a des solutions. Tu vois, je suis le seul à pouvoir trouver. Maintenant. quand ça devient, si c'est des sujets trop récurrents, mm-hmm. par exemple, j'ai une réflexion avec le mentor pour trouver d'autres types de solutions que je ne connais pas forcément.
Bien sûr, tu vois. Tu dois, ouais, te former.
Donc voilà, donc sur le ce type de crunch time. Et puis il y a les événements. Et là, Adicom, madame, elle sait.
Madame, elle est prévenue que quand Adicom arrive.
Tout le monde sait que.
Ah, c'est ça. Après, est-ce que tu penses que sur ce sujet-là, typiquement, quand tu dis elle sait, ouais. c'est genre, chaque année, vous savez qu'à ce moment-là, genre, je sais pas, il faut du renfort pour t'aider. Est-ce qu'il faut prendre des vacances avant ou pas de vacances du tout? Comment vous en parlez à deux de ces sujets-là? Parce que j'imagine qu'en fait, ça doit être. Parce que moi, quand ça arrive crunch time, Dieu merci, ça m'est arrivé une fois le crunch time. En étant en couple quand j'étais marié, effectivement, pendant ma levée de fonds. Mais moi, je l'avais prévenu avant. Je lui ai dit, à partir du moment où je rentre en levée, je suis un autre homme. Non, je suis désolé, ça va durer 6 à 9 mois. Après, je joindrai moi-même.
Bon, je ne sais pas si je l'ai prévenu, mais elle a constaté. Nous avons fait une petite pause parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous savez, Entrepreneur State of Africa, plus qu'un podcast, plus qu'une chaîne YouTube, c'est une communauté. C'est une communauté qui a une vision commune. Cette vision, c'est de croire que grâce à l'entrepreneuriat, on peut avoir un impact sur notre communauté et que par l'entrepreneuriat, ce sera le développement de notre continent. Mais pas que. Cette communauté, elle est aussi pleine de personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui ont également cette vision qu'il faut investir sur soi-même pour être meilleur, pour avoir un impact. C'est vraiment l'objet, c'est vraiment ce qui nous porte à partager et avoir des conversations comme celles que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Quand vous serez membre de cette communauté, vous aurez également accès à des meet-up, des dîners, des événements totalement gratuits. C'est vraiment une opportunité également d'échanger en permanence avec Moulay et moi, parce qu'on est très fiers de cette communauté, on est très fiers d'échanger avec cette communauté. Il y a des profils des quatre coins du monde. Et on a vraiment hâte d'avoir plus de monde parce qu'on veut donner l'opportunité à n'importe qui d'échanger sur ces sujets-là. Et c'est toujours plus facile quand on est ensemble. Donc, adhérez parce que dans l'oreillette, l'homme de Bamako me dit que le prix pourrait augmenter très rapidement.
Après, c'est différent dans ton cas, elle était impliquée dans Adicom à un moment aussi.
Oui, il y a des années où
ouais, elle est
plus impliquée que d'autres.
Ouais.
Après, comme c'est un environnement qu'elle connaît, effectivement. Mais après, c'est toujours, je pense que pour elle-même, c'est toujours surprenant parce que…
Ah, même pour elle
Non, oui, mais parce qu'en fait, de se dire que… Ah, mais… L'année dernière, vous avez déjà ce problème-là. Pourquoi cette année encore? c'est trop long. Mais ce qu'il faut savoir, après, on est une équipe un peu plus réduite sur Adicom. Donc, c'est pas toujours évident.
Ah, et c'est pas tout le monde de Totem qui bosse sur Adicom?
Ah non.
Ah, ça, c'est un truc que je savais pas, tu vois, par exemple.
Ah ouais?
Non?
Non, mais tu vois bien. C'est...
Non, mais je sais que tu as même fait deux boîtes différentes et tout.
Sur les doigts d'une main.
Les gens d'Adicom, vous êtes 5.
Ouais. Après le jour J,
vous amenez des gens totems.
On a des totems qui se prêtent au jeu. Après, on a la Totem Family. On a créé cette communauté où les gens qui ont travaillé sur Adicom les années précédentes veulent toujours
être
impliqués. Donc voilà, mais on peut pas les solliciter trop en avance parce que
il faut les
rémunérer sinon.
Ouais, c'est clair. Et nous,
on les rémunère. Tu vois, on les rémunère, mais du coup, ils travaillent plutôt sur vraiment à l'approche de l'événement. Mais tous ceux qui sont dans l'événementiel le savent. C'est pour ça que je dis souvent, les gens ils me disent « Ah, tu peux m'aider à faire événement, etc. » Je dis « En fait, alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'aime ça.
» Il a dit « J'aime ça », il a dit
« Non. »
Et j'en veux plus.
Non, mais genre, parce que genre, en fait…
Mais parce que quand tu dis « Oui, je ne
oui,
vois
non, mais faut, pas. » Oui, non, mais il faut préciser. Non, mais parce qu'il faut le préciser.
Oui,
tu vois, c'est que… c'est ce que tu disais l'autre jour, c'est, tu vois, c'est dur, mais en même temps, il faut aimer ça.
Il faut aimer ça, sinon
en
tu
fait,
peux pas le faire.
Je dis pas qu'il faut, enfin, comment expliquer, c'est pas que tu aimes
la pression,
la difficulté, mais tu aimes le fait que, tu aimes le challenge, tu aimes le fait que tu es en compétition, en fait, avec toi-même.
Ah ouais, ce challenge-là, ouais.
C'est ça. Et que tu sais que tu vas arriver, que tu as une mission, tu dois y aller. Et que voilà, et que c'est des choses que d'autres ne font pas. Donc, chaque fois, tu vois, pas plus tard qu'hier, il y a une jeune entrepreneur qui m'a demandé d'aider pour un événement culturel. Je dis, mais comment on suis à arriver là? Mais c'est difficile d'expliquer, en fait. Quand aux on gens, dit aux gens, ouais, travail, même quand ce sera dur, travail, c'est difficile, en fait, d'expliquer. En fait, il faudrait, comme Gary Vee fait, filmer en permanence.
Maintenant, ce que tu vis.
Tu vois.
T'as jamais pensé à faire genre, à dire Totem Experience, à dire à Totem Factory qui te suivent pendant la Adicom?
Oui, on est chaque année, on dit ça. Fabrice.
Chaque année, on
vous
dit ça.
Pas,
la Factory devrait faire un vlog Adicom, Road to Adicom.
D'ailleurs, petite pub Factory, ce podcast est produit par...
Ah non, mais alors, grosse pub Factory. Non, parce qu'il y a plein de gens qui... J'avoue, ça m'épate. Pas plus tard que... Mais je t'ai écrit quand j'ai parlé, du coup, avec l'influenceuse Voyage numéro 1 que les gens peuvent connaître, à qui j'ai dit, mais il faut que... Elle me dit, ah, je réfléchis à faire un podcast. J'ai dit, mais fais avec Totem Factory. Elle me dit, ah bon, mais c'est eux qui font? J'ai dit, oui. J'ai dit, mais c'est écrit tout le temps. Elle me dit, ah, mais j'ai pas compris qu'en fait, je pouvais moi aussi demander. Donc.
Faut créer une pub.
Bon, là, voilà, bon, voilà la pub. Vous voulez, vous aussi, réaliser un podcast de ce niveau de qualité? Vous voulez, vous aussi, avoir derrière le contenu qui vous fait passer de 1000 followers à 11 000 en 6 mois? C'est ça, non, la stat.
Tu promets des chiffres.
C'est ce qu'on a fait, mon ami. Il n'y a pas de problème. Il faut dire aux gens.
En tout cas, il y a d'autres podcasts qui arrivent. Il y en aura pour tous les goûts.
Il y en aura pour tous les goûts. Voilà. Il y en aura pour tout. Donc. Que les gens sachent. À un moment, voilà. Vous savez, vous voulez faire du podcast, vous êtes
contactez
en Côte d'Ivoire
nous.
Ou en France, vous savez qui appeler.
Contactez-nous.
Voilà.
Crunch time.
Crunch time. On revient sur le
levée de fonds.
Putain, levée de fonds. En fait, levée de fonds, bon, j'ai fait une formation entière dessus où j'explique à quel point c'est un autre monde. C'est-à-dire que mon calendrier n'est pas le même. Genre, par exemple, en levée de fonds, c'est la période de l'année où, par exemple... je peux pas suivre. Par exemple, je passe beaucoup de temps à lire ce que font mes équipes, les analyses et les datas. En levée de fonds, je peux plus.
Ouais, ça, tu avais dit. Ça, c'est très bien ce que tu fais. Et tu le disais même avec ton ex-femme, c'est que tu préviens.
Oui, non, je dis aux gens.
Et tu préviens que tu vas rentrer dans un.
Non, mais ils savent. Ouais. Et en plus, le problème, c'est qu'en levée de fonds, en général, quand moi je vais en levée de fonds, c'est parce qu'il y a plus de cash.
Oui, donc c'est la
c'est
tension.
C'est clair et net. Et au max. Donc en général, je dis aux gens. Pour les 6 prochains mois, oubliez-moi. La seule exception que je fais, c'est qu'on a un all-hands-on meeting. Donc, une fois par semaine, on a une heure où toute la société est réunie. Je viens toujours à ça. C'est le seul truc qui ne bouge pas pour rappeler aux gens quand même que je suis là. Et c'est aussi mon moment à moi pour juste quand même garder un peu de lien avec l'équipe. C'est le seul truc que je ne coupe pas. Mais tout le reste, mes meetings d'équipe, mes meetings individuels, tout saute.
Mais qui prend le relais?
Cadrer.
D'accord. Donc, lui aussi, il sait que sur ces 6 mois.
Ah non, mais quand je pars en levée de fonds, lui-même, il part en levée de fonds. C'est juste que. Parce qu'en fait, lui, en plus, il va avoir le travail. Mais en plus, du coup, toute l'équipe doit être au courant parce que des fois, je tombe sur eux en disant je veux les chiffres sur ça d'ici demain.
Ah oui, pour
parce
la.
Que les investes. Mais parce que les investes me posent un chiffre, je ne l'ai pas, moi. Des fois, je peux répondre, mais souvent, je dis ah, je vous reviens. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le timing joue. Je ne peux pas dire à un invest, il me demande quel est. Le produit qui a le plus de traction au Nigeria.
Tu ne peux pas lui dire « je te dis ça la semaine prochaine ».
Non, parce qu'il va se dire « il ne connaît pas ses chiffres, c'est des bolos dans cette boîte ». Non, mais c'est la réalité, je ne peux pas. Ce n'est même pas une option. Donc en fait, quand il me dit ça, et moi, je ne peux pas trouver le chiffre tout seul. Ou des fois, il me dit « ah, est-ce que vous avez des exemples de clients qui ont pu employer des gens en Afrique australe ?» Mec, je ne connais pas tous mes clients, j'en ai 20 000. Donc du coup, je suis obligé au moment où ça arrive. Boum, je dis à Kader, ok, demande à Ola dans l'équipe, Afrique australe, quel vendeur on a qui performe le mieux, envoyez-moi la liste. Et après, dans la liste, moi, je fais le travail de dire, ok, lui, je pense que ça parlera plus à ce gars-là, lui, non, nanana, et je fais mon taf. Mais du coup, tout le monde est enlevé, en fait. Toute la boîte est enlevée. C'est juste que moi, je suis en front.
Ouais.
Toute la boîte est enlevée. Donc, du coup, les managers le sentent. Bon, mes associés, pire que tout le monde, le sentent parce qu'eux, en plus... Il y a un certain niveau de meeting où ils savent qu'ils doivent arriver. Donc, en fait, eux, je fais un point avec eux. En fait, après le rendez-vous d'une heure qu'on fait avec les employés, on a un rendez-vous d'une heure entre founders chaque semaine. Et du coup, c'est ce moment-là où je leur dis, OK, les gars, voilà, on en est sur la levée. Il me faut ci, ça, ça. Semaine prochaine, j'aurais besoin que toi, tu viennes à un meeting. Semaine prochaine, fais gaffe, toi, ils vont te demander ça. Et j'essaie d'anticiper. Mais c'est un mode de vie où aussi, par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est la période de ma vie où je suis le plus régulier. C'est-à-dire que là, je fais plus de sport que le reste de l'année.
Ah, mais tu sais, ça, c'est un vrai point. Parce que je pense qu'on est dans cette période-là, tous nos sens sont plus... On est alerte à beaucoup de choses.
Exactement.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis en crunch time que je vais sauter... Tu vois, le petit déjeuner que je saute peut-être...
Le reste de l'année.
Alors que là, tu vas dire...
En crunch time, ça, c'est important. Ouais. Voilà, tu vois.
Tu vas faire attention à ces petits détails.
Ouais. Et c'est marrant parce que je me souviens, quand ça la faisait beaucoup rire. Elle disait, mais en fait... Elle dit, mais en fait, genre, si le reste de l'année, tu avais la même attention à toi, en fait, tu ferais 10 fois plus. J'ai dit, mais le problème, c'est que je ne peux pas être tout le temps comme ça. En fait, le niveau d'intensité et d'énergie que ça me demande, je sacrifie quelque chose, typiquement. Et c'est pour ça que je lui dis, je peux être très attentif sur la gestion du temps, par exemple. Ouais. En levée de fond, tout ce qui touche à mon temps, j'y arrive très bien. Par exemple, moi, la bouffe, c'est là où j'ai le moins de contrôle. Parce que j'ai besoin de tellement de carburant que j'ai du mal à en même temps me contrôler là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que là, j'ai fait ma levée de fond cette fois en même temps que je vais 21 jours sans manger. Donc, j'ai réussi pour la première fois à décorréler. Mais c'est un danger des crunch time. Par contre, quand tu es entrepreneur, c'est que si tu ne les appelles pas crunch time, si tu ne sais pas que ça doit s'arrêter, tu peux être tout le temps dans ces cycles-là, en fait.
Ouais.
Et moi, ce qui m'est arrivé à un moment, en fait, quand on est revenu en Côte d'Ivoire, en fait, de 2018 à 2019, c'est là où j'ai pris l'habitude, par exemple, d'avoir une telle relation à la nourriture. Parce que ce n'était pas aussi grave ma relation avant, mais c'est vraiment quand j'étais en mode, j'enchaînais les levées, qu'en fait, j'étais tout le temps dans un mode où j'avais toujours l'impression qu'on allait mourir. Donc tout le temps je me battais avec la dernière des énergies. Et c'est pour ça qu'on dit par exemple que tu ne peux pas vivre tout le temps pour survivre. Sinon tu as une vie courte. Les gens qui survivent toute leur vie ont une vie plus courte. Parce que le stress que tu as, et on n'en parle pas assez je trouve quand tu es entrepreneur, mais ça a un coût en fait. Tu le sens pas au début, tu le sens pas peut-être pendant 2-3 ans. Mais quand tu passes 5-6 ans comme ça, c'est là où ça pète. C'est là où les gars font des burn-out, c'est là où... Parce qu'en fait t'as l'impression que t'es super focus, t'as l'impression d'être en mode tel un laser, mais en fait, au bout d'un moment, tu sais, un laser, l'intensité de la lumière, il faut l'alimenter. Et t'as pas une batterie infinie. Et donc, c'est pour ça que moi, par exemple, maintenant, j'impose toujours après les crunch time de faire un gros break. Tu vois, là, je suis en vacances pendant 3 semaines parce que je sors d'un crunch time où on a frôlé la mort de très près. Et je sais que si je m'amusais avant, je me serais amusé à directement après ça... C'est reparti, on a parti comme en 14, c'est ce que j'ai fait à la levée d'avant. Et j'ai tout foiré après. Alors qu'en fait, il faut que tu mettes un break après.
Et c'est Patrick Bette-David qui disait dans une de ses formations, tu sais, où il fait pas mal le lien entre l'émotion et la logique quand tu construis ton plan.
D'accord.
Et donc du coup... Tu sais, tout le monde sait qu'il doit faire son business plan ou son plan d'action à l'année, etc. Et lui, il disait, quand tu fais ça, tu fais aussi ton plan...
Émotionnel, genre.
Émotionnel. Enfin, ça veut dire, en fait, c'était le côté personnel, c'est-à-dire à l'année.
Ah.
Tu vois? Donc, ça veut dire que tu planifies tes vacances.
Exact.
Tu vois? Tu planifies ton temps avec ton conjoint, tu planifies ton temps avec ta famille.
Exact.
Et en gros, ça te permet, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que ça permet au cerveau de se dire, OK, j'ai tel élément, mais après j'ai ça, etc.
Après, exact.
Et quand tu as l'impression d'être dans un tourbillon et tu ne sais pas où est la fin, c'est là où c'est super dangereux. Donc là, par exemple, moi, je sais que j'ai, par exemple, Adicom en novembre. Et je sais qu'après, j'ai une semaine où je vais voir mon grand frère en Belgique, par exemple.
Tu le sais déjà,
Je sais déjà, tu vois. J'essaie de, tu vois, de l'imposer, etc. J'en ai déjà parlé et tout. Et c'est calé. Et donc, ça permet aussi, tu vois,
balancer.
De créer un équilibre. Et c'est ça, en fait, le truc. En fait, je pense qu'avec l'expérience, tu arrives à trouver. Mais, c'est-à-dire que je connais ce feu-là.
Mon ami.
J'ai besoin d'eau aussi.
Et t'as besoin d'eau. Et surtout, c'est très important. Moi, je dis aux gens, attention, un truc que moi, j'ai fait comme erreur aussi beaucoup. Et que malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs, je pense hommes, encore plus que femmes, ont tendance à faire, c'est à confondre repos et récupération. Typiquement, il ne faut pas penser que parce que tu vas en vacances avec ta famille et que tu passes tes vacances à dormir, c'est du repos. Ou en tout cas, il faut que tu aies conscience que, pour ta famille, tu n'es pas là. Mais nous, on ne s'en rend pas compte. Beaucoup de pères de famille qui sont entrepreneurs, c'est ce que j'ai remarqué. En fait, les moments où eux sont là, ils ont l'impression de faire l'effort d'être là. Mais en fait, ils se reposent en fait. Et les autres le vivent comme il est là, mais on n'est pas la priorité. Encore une fois, même quand il est là. Et du coup, il y a un vrai sujet sur il faut distinguer le repos de la récupération. Donc, si tu considères que ton temps familial est important, il faut le séparer du temps du repos. Il ne faut pas mélanger les deux. Et ça, pour le coup, il y a plein de gens qui ont essayé de m'expliquer quand je m'en exprime en me disant que j'ai toujours tendance, quand tu es entrepreneur, des fois à vouloir mélanger les deux. Parce que tu te dis, mais je vais me reposer et en même temps, je fais ça. Je vais me reposer et en même temps, je fais ça. Mais en fait, tu ne te reposes pas. Ou au contraire, tu te reposes, mais tu, en fait, le truc que tu fais, tu ne le vis pas vraiment.
Ouais. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire.
Par exemple, là, quand j'ai voulu me reposer, je ne suis pas allé en vacances. Je n'ai pas voyagé.
Ouais.
Parce qu'en fait, du coup, j'aurais ou voyagé et kiffé mon voyage, mais je n'aurais rien fait, pas de repos, ou alors je ne me serais pas reposé.
Ouais, donc, tu peux voyager et te reposer là-bas.
Ça dépend des gens.
Oui, ça dépend des gens.
C'est ça des gens. Mais je connais, la plupart des gens, quand ils voyagent, en fait, ils reviennent plus fatigués.
Oui, oui, ça, c'est un principe que je ne...
Je Et voilà, la team Luxure Voyage, je vous vois. Vraiment, Nathalie, Laurette, tout ça, je vous vois.
Ça, mais... c'est à cause d'Instagram.
C'est ça. Mais du coup, ouais, vraiment, il faut distinguer repos de récupération. Ce que je dis vraiment aux gens, et c'est important, récupération, c'est faire des choses qui donnent de l'énergie. Moi, c'est lire des mangas, jouer aux jeux vidéo. Des personnes, ça peut être cuisiner, ça peut être... Il faut refaire des choses qui te font kiffer.
Ouais.
Qui sont différentes des choses qui te permettent de récupérer de la forme ou du sommeil.
Ouais, ouais.
Donc, c'est là où il y a un... Il faut se connaître. Encore une fois, on revient à la road to Gary Vee. C'est self-awareness.
Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, par exemple, un truc totalement contre-intuitif. Je sais que quand je vais jouer au foot, quand je vais jouer au foot, tu vois, ça me fait d'être sur le terrain,
bien
etc.
Sûr.
Mais en vrai... c'est l'activité qui fatigue le plus parce que j'ai plus trop l'habitude,
exactement,
etc. Tu vois.
Ouais, ouais.
Mais effectivement,
en termes d'énergie,
tu en as.
T'en sors, tu as de l'énergie.
Tu vois, ouais. Alors que tu es fatigué. Tu
ouais, vois. Et il faut distinguer vraiment, et c'est souvent ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est que tu as ta forme physique,
ouais.
Tu as ta forme émotionnelle. C'est comme si tu avais deux batteries à gérer.
Ouais.
Et en fait, on a tendance, et c'est là le clé de la santé mentale, c'est que ta santé mentale demande aussi à ce que tu remplisses ta batterie mentale.
Exactement.
Qui est différente de ta batterie physique. C'est vraiment deux choses séparées. En attendant, ça ne voit qu'une seule. Mais en fait, les deux, tu dois, en tant qu'entrepreneur, plus qu'ailleurs, les séparer. Mais en vrai, tout le monde doit les séparer. La chance qu'ont la plupart des autres métiers, c'est que, de facto, tu as des cycles plus linéaires que nous.
D'ailleurs, on a un épisode entrepreneur et santé physique à faire.
Exact. C'est vrai. Ouais, on a trouvé l'invité en plus. Donc, on est bien. Donc, en tout cas, je pense qu'on est pas mal du tout sur ce sujet. C'est pas si... Toi, tu voyais autre chose, mais je pense qu'au final, quel
non,
serait le
mais
mot
juste
pour
un
gens?
Truc, c'est que je, pour impressionner le peuple, j'étais venu avec un chiffre, mais j'ai complètement oublié. Je voulais faire monsieur chiffre.
Allez, on voit la sauce, finissons bien.
Je me dis à quel moment, bon, il n'y a aucun contexte, mais je le sors.
Vas-y, envoie.
Non, mais je trouvais ça intéressant. Il disait que, tu vois, 90% des personnes qui travaillent aujourd'hui travaillent en moyenne 2 heures de plus par jour. Qu'il y a 2 ans.
2 heures de plus par jour qu'il y a 2 ans avant le Covid. En 2021, tu veux dire. Ouais.
C'était. Non, je crois qu'ils ont fait l'étude en 2020, donc c'est en 2019.
D'accord.
Donc, mais c'est juste pour te dire qu'on travaille de plus en plus, mais la stat qui vient derrière, c'est de dire que les gens, quand tu leur demandes, ils loupent en moyenne 25% de leur engagement.
De leur temps de travail.
Non.
Ils n'arrivent pas à délivrer de leur réunion.
Engagement, livrable, réunion, etc.
25%.
Exactement. C'est-à-dire, mais ça peut être des petits trucs.
Mais ils travaillent plus, mais ils n'arrivent plus à envoyer.
Exactement. Tu vois un peu le truc. Mais il y a un truc, tu vois, bon, on peut peut-être pas développer, mais je pense que, de manière générale, moi, je suis choqué de la manière dont les gens sous-estiment le temps qu'il faut pour une tâche.
Mais
et d'ailleurs, bon, pour être fair, c'est pas, enfin, moi-même, tu
ça
vois,
arrive,
ça arrive. Et je crois même qu'il y a, un biais, un biais qui est cognitif, humain et qui est à tous, c'est qu'on a tendance à sous-estimer le
temps
pour
que
faire
prennent
quelque
les
chose.
Ouais, non,
que
c'est sûr.
Les choses.
Mais c'est sûr ce que tu dis là, parce qu'en fait, ce que tu décris, si on retient cette stat que effectivement les gens bossent 2 heures de plus en moyenne que les années d'avant, mais font 25% de moins
d'engagement
tenu,
ça
veut dire que les gens ont pris plus d'engagement qu'avant.
C'est ça.
La seule explication mathématique, c'est que les gens prennent trop d'engagement. Et je pense que c'est aussi parce qu'on est dans cette gourmandise, en fait, pour reprendre l'épisode sur la gourmandise, où les gens maintenant veulent tout faire.
Ouais.
On veut être instagrammable, mais en même temps épanoui, et nanana. Et les gens veulent couvrir tout, toutes les bases.
Tu veux tout faire et tu veux que les gens pensent que tu es capable de tout,
tout faire. Et c'est ça le danger, donc tu te mets à l'exposition. Et comme, pour résumer, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est dans Derrière aussi, il disait, tu peux tout avoir, mais pas tout en même temps, et pas tout le temps.
Ouais.
Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Tu peux avoir les choses à différents moments de ta vie, tu peux avoir toutes les choses que tu veux dans ta vie, mais tu ne les auras pas toutes en même temps.
Exactement. Si
donc Et c'est ça qu'il faut accepter, c'est ça qui fait ton timing, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un plan de vie. Ouais. Tu ne peux pas dire, je veux tout faire là, maintenant.
Ouais.
Et sinon, tu vas louper quelque chose. C'est humain. Et souvent, ce que tu vas louper va te faire des fois tellement mal que tu ne vas même pas apprécier le reste.
Ouais.
Donc, j'avoue que c'est une très, très belle stat, tu vois. Ah, voilà, mon ami.
Un peu de chiffres.
Non, mais j'aime quand tu nous fais ça. Là, tu me mets bien.
Au bout de bientôt 50 épisodes.
Il faut qu'on commence à élever le lever. Ah, j'aime beaucoup. Tu vois, moi, je prends de la nuance, tu prends des chiffres. C'est pas mal, hein. Alors, les gens ne vont pas dire qu'on ne progresse pas.
C'est clair.
Par contre, un truc qui me rappelle, on m'a posé la question, et c'est vrai que j'avais dit que j'en rappelle dans cet épisode-là, c'est quoi un bon rythme de repos pour un CEO? Et ça, c'est une question qu'on m'a posée juste pour conclure. Moi, ce que j'avais étudié, j'ai vu plein d'études, la théorie. Bon, maintenant, je donne la théorie. Ça, c'est le bon rythme de repos pour toute personne qui a responsabilité, donc CEO comme dirigeant. Ils disent, en théorie, encore je répète, en théorie, toutes les 3 semaines, tu dois faire un week-end de 3 jours. Tu dois prendre un jour de repos. Toutes les 6 semaines, au-delà de 1 jour, tu prends 1 semaine.
Ouais.
D'accord ? Et ensuite, 2 fois par an, il faut que tu prennes au moins 1 mois. C'est ça.
Deux fois par an, 1 mois, donc 2 mois.
2 mois. Au total. Donc, ça veut dire qu'en fait, et quand tu fais le calcul, tu te dis, mais attendez les gars, vous voulez que je bosse pas? Et en fait, non mais après, j'ai fait un calendrier. Quand tu fais le calcul, tu te rends compte qu'en fait, le 2…
La Guadeloupe m'a sauvé.
C'est ça, tu as fait quelque chose quand même. Mais en fait, après, ce que j'ai compris, c'est que ce qu'il veut le dire, c'est que le deuxième mois, en fait, est collé à ta fin d'année. Je ne sais pas comment tu commences. Mais en fait, tu peux la splitter en 2 semaines et 2 semaines de ta fin d'année. Donc, si tu commences l'année avec 2 semaines de vacances, dès que tu l'as fini avec 2 semaines, tu as fait 1 mois de plus que le mois qui est au milieu.
Ouais.
C'est ça.
Mais toi, tu fais.
Non, j'ai pas réussi à faire les 2 mois. J'ai fait qu'1 mois. Non, même le 1 mois, j'arrive pas.
Après, moi, j'ai du mal avec quand on théorise sur ce genre de choses, précisément, tu vois. Parce que je pense que, par contre, il y a un fait. Il faut prendre des congés, il faut se reposer, etc. Mais le truc, un jour tous les 3 semaines, enfin, se base sur quoi? Enfin, je pense qu'il faut se connaître.
Oui, non, voilà. Après, ce qu'eux, ils disent, c'est qu'ils disent de faire ça en mode tu le fais préemptivement. Quand tu commences ton année, et j'avais lu ça dans un podcast de Tim Ferriss, en fait, où il en avait parlé, où il disait que lui, dans l'année, il cale ça déjà. Ensuite, il peut choisir de dire j'ai pas besoin.
Moi, je trouve que c'est dangereux quand tu cales un truc et après tu le supprimes.
Ah, tu vois, après,
en fait,
c'est ça.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être le plus juste possible. C'est-à-dire, lui, il est dans la théorie, je cale le max et puis après, je supprimerai, je verrai. Mais tu vois, c'est que quand tu essayes de faire le juste milieu, ça devient précieux, en fait.
Voilà. Et ce que lui, il essaie de dire, c'est qu'en fait, il disait comme toi, il faut caler les choses qui t'ont apporté de l'énergie dans l'année.
Et ah si tu oui, dis, c'est
cette
vrai.
Année, je dis, je veux passer plus de temps avec ma sœur. Mais tu prends un de tes une semaine, et tu parles avec elle dès le début de l'année en disant, bon, c'est quoi qui t'arrange? Et tu cales par rapport à tes moments que toi, t'as anticipé avec tes crunch time. Donc, si tu cales tes crunch time, tu cales tes moments de repos, tu peux choisir les choses importantes et les allouer au moment que tu choisis d'allouer à ton repos, à ta récupération, l'un ou l'autre.
Mais c'est vrai que le paradoxe, c'est que si tu demandes aux gens quelle est la chose la plus importante pour toi, ils vont te citer une chose. Ouais. Mais si tu regardes leur emploi du temps,
c'est pas ce qu'ils font.
Et c'est pareil pour l'argent.
C'est pareil.
Si tu demandes à tout le monde qu'est-ce qui est important pour toi, dis la santé, être en bonne santé. Tu demandes de regarder ton banque, tu vas voir, mais tu dépenses rien.
Rien de santé.
Ni santé mentale, ni santé physique,
rien
du tout.
Oui, mais c'est parce que, encore une fois, c'est la grosse dissonance cognitive entre ce qu'on veut et ce qu'on est et ce qu'on fait.
Ouais.
Et c'est ça la congruence au final qui permet d'arriver au bonheur pour beaucoup de gens, c'est ça. C'est de se dire, il faut que tu réussisses à te faire violence. Parce que ce n'est pas naturel. C'est pas naturel, exactement comme on l'a dit avant, c'est pas naturel de se dire, je peux tout avoir, mais pas tout en même temps et pas tout de suite.
Ouais.
C'est pas naturel. Le réflexe naturel, quand tu planifies, c'est de vouloir tout en même temps, le plus vite possible. Et donc, c'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour le temps. Donc, du coup, je pense que, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mot de la fin à nos gens?
Ah.
sur la gestion du temps. Parce que là, on a couvert quand même pas mal de trucs et je pense que c'était...
Peut-être un peu de témoignage, ce serait bien, parce que nous, finalement, on a partagé notre expérience, mais vous avez pu voir qu'on cherche toujours à s'améliorer.
Bien sûr.
Est-ce que vous aussi, vous avez justement dans cette quête de time management appris des choses?
Ouais.
Ce serait bien, on aimerait bien avoir des vrais commentaires. Où
tester
vous...
des choses, ouais, peut-être.
Ouais. Des choses que vous avez testées.
Je sais que le Miracle Morning va prendre cher là-dedans. Parce que plein de gens ont essayé ça.
Ah, le fameux
Miracle Morning. Parce que les gens...
Et la semaine de 4 heures.
Et la semaine de 4 heures. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais bon. J'ai parlé de Tim Ferriss. Donc bon.
C'est best-seller.
C'est best-seller. Donc, je sais pas...
Dites-nous.
Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, quel mot on dirait pour la gestion du temps? Je pense que pour le coup, j'ai bien aimé ta priorisation.
Priorisation, ouais.
Parce qu'au final, c'est ça la gestion du temps.
Il faut prioriser.
Il faut prioriser. C'est prioriser des fois sa récupération à son repos, des fois prioriser aussi les temps d'intensité pour accomplir un objectif. Et changer son identité, ça va prendre des sacrifices qu'il faut savoir prioriser par moment.
Priorisation, que ça soit au quotidien, que ça soit sur l'année et dans votre vie. Là, il parle du plan.
Le plan, les amis. Vous n'avez pas de plan, vous n'allez nulle part.
Exactement. Donc,
voilà. Comme on dit, il n'y a pas de vent favorable à qui le sait où il veut aller.
Tu voulais finir avec un petit problème.
Quand même, faut qu'on commence à avoir des sauces.
Si tu commences, il faut après enchaîner. Un proverbe à chaque fois.
Un proverbe à chaque truc. Envoyez-moi des proverbes, pardon, c'est chaud.
Voilà, mettez-nous aussi quelques proverbes pour alimenter la rubrique. Et puis voilà, encore merci à tous et abonnez-vous s'il vous plaît.
Très important.
Vous êtes de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus nombreux à juste regarder et puis disparaître.
S'abonner, c'est gratuit.
C'est gratuit, voilà. Et en plus, vous pourriez voir d'autres vidéos qui vous intéresseraient.
C'est ça.
On va pas s'arrêter en si bon chemin.
Exactement. À plus. Très vite.